Vous avez fait quel multiple dessus ?
x500. Moi, je suis très convaincu qu'il faut perdre de l'argent pour en gagner.
Le plus grand montant que vous ayez levé sur un projet ?
On est rentré dans la private sale d'Avalanche. Si en moyenne, ça fait x5 ou x10, tu peux accepter de te faire rug une fois ou deux.
Le Crypto Daily, demain, on lance un token.
Les gens de la communauté se plaignaient dans les chats quand un projet se lançait à x10. Salut, c'est Alex de Gains pour le Crypto Daily.
Let's go. Salut à tous, merci d'avoir cliqué, vous êtes bien sur le Crypto Daily. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité ultra stylé, c'est Alex de Gains Associates qui a levé en près de quasiment un peu moins de 7 ans, près de 35 millions de dollars. Ça va être l'un des premiers VC décentralisés. N'oubliez pas de vous abonner et on commence tout de suite.
Salut Ben, super content d'être là et ça va être super stylé.
Bah, merci de me faire mon intro, en général c'est moi qui dis alors comment ça va. Mais... Donc Alex, quel âge tu as ?
J'ai 30 ans.
30 ans, t'habites où ?
À Paris, enfin à Paris, je viens de Paris, maintenant Dubaï, je passe la moitié de l'année à Dubaï.
T'as passé toute ta vie à Paris ?
Quasiment. Okay. Études à Bordeaux, mais voilà.
Bah tu sais quoi, présente-toi rapidement comme ça en deux minutes, tchic-tchac, et après on rentre direct dans le sujet avec Gains Associates.
Ok, bah voilà, grandi à Paris, parcours assez classique, prépa, école d'ingé à Bordeaux. Okay. Et après, je savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais pas forcément avoir un job d'employé. Et j'étais assez fort à un jeu qui s'appelle League of Legends.
Ok,
j'ai
lol.
J'ai passé un an, j'ai essayé d'être streamer un peu, mais c'était très difficile.
C'est très compétitif,
League of Legends. C'est super dur et surtout, c'est très dur de jouer à un haut niveau et de commenter, d'être marrant en même temps. Et
ah bah oui, parce que oui, c'est vrai que...
Il faut faire deux choses à la fois.
T'as des mecs qui arrivent à être de très bon niveau et à commenter en même temps ?
Il y en a qui arrivent, ouais. Et franchement, ils sont forts.
Parce que tu vois, je crois que Squeezie a joué un petit peu à LoL, mais il a toujours été plus dans la drôle niveau commentateur que bon joueur, tu vois.
Il y a l'entertainment, il y a ceux qui sont, pour ceux qui connaissent, en plate et autres, mais t'as des joueurs qui sont diamant 1 plus et qui en plus commandent, sont marrants, et là c'est vraiment fort.
Ok,
mais bon,
ça, donc
voilà,
streaming ça marche pas ou
ça,
tu veux pas
ça a pas trop marché.
On est en quelle année?
On est en 2017.
Ok.
Et après je me suis dit ok, c'est trop compliqué, comme j'étais bon, j'essaie juste de me focus sur le jeu, de monter. Voilà, j'ai été semi-pro, j'ai fait quelques compètes en France.
Toujours sur LoL ?
Toujours sur LoL. Et bah, c'était difficile en fait, voilà, parce que tu passes...
C'était quoi ton nom de scène ?
C'était FireRunner, mon pseudo.
FireRunner ?
F-I-R-U-2-N-E-R. Voilà, c'était Fire et Runner combiné.
Fire, ok.
Je suis encore sur op.gg, s'il y en a qui veulent regarder, mais bon, bref. Et voilà, donc c'était une petite partie de ma vie. C'était très dur, mais c'était intéressant quand même pour la résilience mentale, la communication. Mm-hmm. Parfois, c'est un jeu en équipe, donc tu perds, c'est pas forcément de ta faute, ça peut être dur à accepter, faut travailler en équipe.
Bien sûr. Voilà.
Et ensuite, j'ai découvert les cryptos.
Comment ça s'est fait ?
C'était très simple, un ami m'en a parlé. Il m'a dit...
Il a changé ta vie, ce pote ?
C'était fin 2017, au top du bull run. Il m'a dit, en résumant, j'ai gagné trop d'argent, il faut que tu regardes. Je dis, bon, d'accord, je vais regarder.
Combien trop d'argent ?
Il m'a pas précisé, mais bon, je sentais qu'il s'était mis bien. Et okay. En fait, ça a révolutionné des vies, parce que ça n'existait pas.
Ah bah bien sûr.
Voilà.
Quand tu gagnes hein, 2000 euros par mois et que d'un coup tu te retrouves avec 50, 60, 80 000 euros dans un wallet, voire plus, hein, on a connu des sommes beaucoup plus hautes aussi. C'est life changing.
Ouais. Et donc, simplement, commencer à investir 50 euros, 100 euros petit à petit sur Coinbase, puis après tu passes sur Binance, tu t'intéresses plus à l'écosystème. Voilà.
Et après tu sors des exchanges centralisés, tu vas sur du décentralisé, du DEX,
exactement,
du truc.
Mais toi, je sais pas si t'en as déjà parlé dans tes vidéos, comment t'es rentré en crypto ou...
Alors moi, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos parce que c'est une question qu'on pose énormément, tu vois. Alors moi, je suis rentré du mauvais côté de la porte. Je suis rentré du côté de Silk Road.
Okay.
Il y a des années, je voulais acheter des trucs sur Internet et il fallait acheter du Bitcoin. Alors Bitcoin à l'époque, c'est le même que maintenant, mais personne ne comprenait comment ça marchait, tu vois. Donc tout le monde pensait que c'était anonyme, alors que non, spoiler, ça l'était pas. Mais c'était la monnaie pour faire des petites bêtises sur Internet, on va dire. Et je me suis fait arnaquer. Donc j'ai perdu les Bitcoins, j'ai jamais reçu ce que j'avais commandé. Et quelques années plus tard, 2019, il me restait rien, même pas 0,5 ou même pas 0,8 Bitcoin. Mais je retourne sur mon compte Coinbase et je vois qu'il y a de l'argent. Je dis oh intéressant. Et après j'ai commencé à rentrer un peu plus dedans.
C'est marrant, on va en parler plus tard, mais comme c'est de l'investissement. Il y a souvent, moi je suis très convaincu qu'il faut perdre de l'argent pour en gagner.
Je suis d'accord sur un point, mais moi je l'appelle autrement. Moi je l'appelle le prix de la leçon. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous on a tous perdu de l'argent d'une manière ou d'une autre, mais c'est le prix de la leçon. Tu vois, ça t'a coûté ça. Donc il y a des gens, ça va être de se faire rug 50 000, bah ça t'apprendra de signer n'importe quoi. D'autres, ça va être 200 balles parce qu'ils ont acheté un NFT de merde. Voilà, tu vois.
Ouais. Et c'est vrai qu'il faut faire ses propres erreurs.
Donc, tu rentres sur les cryptos, fin 2017, top du bull run. Donc, qui dit top bull run dit bear market qui suit.
Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Il y avait encore beaucoup d'énergie dans le marché, donc on s'est pas rendu compte tout de suite que ça allait descendre et descendre pendant 6 mois d'affilée, avant d'être un hiver où il se passe rien. Il y avait encore des projets qui se lançaient, qui performaient pas mal en janvier, février, mars. Et voilà, petit à petit, on s'en rend compte forcément.
Et donc... Mars, bear market, tu continues quand même?
Bah, on a continué tout le temps.
T'as jamais lâché?
Non, c'était dur. Et en fait, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quand on arrive juin 2018, le Bitcoin est au plus bas, il doit être à 3000. Il était à 20 000 il y a 6 mois. Tu prends un moins 85% en 6 mois. Tu te poses des questions.
Et toi, t'es resté parce que t'y croyais? T'y es resté parce que t'avais plus le choix?
Ben, c'est un peu les deux. Mais je me disais, on a quand même, en 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Et tu regardes les cycles précédents. Tu te dis, ok, ça a déjà fait moins 85%, c'est déjà remonté encore plus, c'est possible que ça refasse pareil. Donc, on a continué comme ça, voilà. On savait pas trop ce qui allait se passer, mais on y croyait.
Okay.
Et oui, en fait, ce qui est dur, parce que nous, on est dans l'investissement, donc, mais dans les bear markets, personne n'investit.
Beaucoup moins.
Voilà, quasiment pas. C'est très
on parlera juste après via Gains Associates, mais les dernières années, ça devait pas être la folie non plus, là. Non.
Donc bon, faut trouver des astuces. On faisait des quiz, des AMA, on postait, on faisait plus un peu de l'éducation, des trucs fun, des petits trucs pour
essayer de
communauté.
De tenir le coup jusqu'au moment où ça repart. Donc tu vis tout ça, tu t'arrives top bull run, tu tapes un bear market, et à quel moment tu te dis tiens on va lancer Gains Associates? Comment ça s'appelait d'ailleurs au début?
Ça s'appelle pareil.
Ça s'est toujours appelé comme ça. Ouais. Okay.
Nous on a investi au début dans Bitcoin, Ethereum sur les échanges centralisés, voilà, et rapidement. On a appris qu'il y avait les IDO. Ça s'appelait pas IDO à l'époque, c'était ICO.
ICO.
Voilà. Et donc, c'est des startups en crypto qui lèvent des fonds.
En token.
En token. Voilà, c'est pas en equity. Qui listent leurs tokens. Et il y en a tout le temps, toutes les semaines, des dizaines, des centaines. Et forcément, il y avait plein de groupes. Parce que la crypto, t'avais quelques VC très connus. Des gros noms déjà à l'époque. Polychain, Pantera, bref.
Mais t'avais Polychain.
Ouais.
Polychain Monster. Oh, j'ai perdu de l'oseille là-dessus. Je sais pas si c'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose, mais bon.
Bah, tu m'as ramené dans des souvenirs relous, là.
Polychain, mais ça pump, ça, au début. Enfin, bref.
Oui, mais pas à la fin. Bon, oui, ça pump au début. Malheureusement, t'en as qui dump sur les gens et d'autres qui se font dump dessus.
Ouais, ouais.
Bah, il y a des fois, je suis plus dans la deuxième partie, moi.
Ouais, ouais. Bah, ça, c'est un truc qu'on a appris en crypto aussi. Moi, je me disais, mais si personne ne vend, calmez-vous, respirez un bon coup, ça va monter. Mais tout le monde rush pour vendre.
Ah, mais si on était rationnel, les marchés seraient au plus haut. Si jamais on savait tous, si l'être humain savait se comporter de manière rationnelle et économiquement intelligente, bah, il vendrait pas, en fait. Si on sait tous que moins on vend, plus ça monte.
Sachant qu'il faut bien vendre à un moment, mais voilà.
Faut bien vendre à un moment, mais voilà, tu peux le pumper à des prix de dingue.
Voilà, il y avait les VC, et il y avait vraiment un truc un peu underground sur Discord, sur Facebook, sur Telegram, des centaines de groupes d'investisseurs qui étaient très souvent créés par des admins qui sont anonymes.
Mmh.
Et ces groupes-là florissaient et levaient de l'éther pour investir dans des private sales de projets. C'était très surprenant parce que...
Tu peux juste nous définir ce qu'est une private sale?
Ouais, alors... Quand il y a un projet qui lève des fonds, ça a des noms parfois arbitraires, mais pour schématiser, ça va commencer par seed round. Donc seed, c'est la graine en anglais, voilà. Après, il peut y avoir une private sale, il peut y avoir une strategic sale. Parfois, il y a juste seed round et le projet se lance, mais c'est juste des noms pour nommer des rounds de fundraising.
Le jeu, c'est de rentrer le plus tôt possible dans le projet pour payer le token le moins cher possible, c'est ça?
On pourrait penser ça, mais ça dépend de ton profil d'investisseur. Parce que quand tu investis plus tôt, ton capital est locké pour plus longtemps. Tu prends plus de risques parce que le produit est moins développé. Donc, ça dépend, toi, comment t'es.
C'est une récompense, un peu.
Ça dépend si t'aimes prendre beaucoup de risques et que tu veux attendre 2 ans. Mais pour les gens qui commencent, c'est moins adapté, je trouve. Et donc, en gros, voilà, y avait plein de groupes, des centaines de groupes sur Discord et autres. Et nous, on a investi dans certaines, à titre personnel, de ces private sales. Et on ne connaissait pas les gens qui nous apportait ça. C'est-à-dire qu'on envoie de l'argent à des mecs random
ni vu, ni connu,
sur Internet. Ça, okay. Et parfois, tu reçois des tokens, parfois non. Et en fait, comme ça faisait... Il y avait encore... Ça pumpait bien. Ça faisait parfois x5, x10. Si en moyenne, ça fait x5 ou x10, tu peux accepter de te faire rug une fois ou deux.
Ouais, bien sûr.
En moyenne, 10 ou 20% du temps, et t'es encore profitable.
Bien sûr.
Mais c'est quand même pas agréable.
Je suis d'accord. Enfin... Oui, t'as toujours la question de, tiens, j'ai fait x10 à la dernière, bon, j'aimerais bien tout remettre et pour refaire x10, hop, tu te fais rug, bah, t'as plus rien, tu vois. Y a ça aussi.
Donc, bon, on participait là-dedans et on se disait ça peut être énorme si il y a des gens qui font ça bien de manière transparente. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Okay. Et spoiler alert, c'était pas si facile.
Donc tu t'es dit, vous vous êtes dit avec tes associés, vous êtes combien aujourd'hui?
Alors on était 4 cofondateurs.
Okay.
Là on est plus que 3, on a une équipe de 10 personnes.
Ok, donc vous êtes dit avec ces 3 copains, il n'y avait pas d'équipe à ce moment-là, j'imagine. On va tout rassembler, de me faire de manière transparente, un peu comme la blockchain, et pouvoir proposer d'un côté à des investisseurs de rentrer sur des private sales, donc avec tous les risques qui en suivent. Mais et derrière, tu vas voir les projets en disant coucou, c'est nous. Nous, on a 200 investisseurs derrière ou 50 investisseurs derrière qui sont prêts à rentrer sur votre private, c'est ça?
En gros, le concept, c'est que en tant qu'investisseur individuel, c'est impossible. Si toi tu veux investir
dans un
projet, voilà, tu envoies un DM à l'équipe, ils vont quasiment jamais te répondre, ils vont t'ignorer, ils ont pas le temps, ils vont pas prendre un ticket de 500 balles ou même 2000.
Oui, c'est des gros tickets. De toute façon, les équipes, j'imagine, même c'est pas un 5 ou un 10 000 balles qu'un investisseur un peu lambda mettrait. C'est combien les allocs? C'est des 100K minimum, 50K?
Ça varie, mais en général c'est ça. Ou alors, si tu veux investir en tant qu'angel, faut être un peu connu. Si t'as pas de nom, mais que tu veux investir dans ces rounds early, il faut passer par un groupe.
Voilà. Obligé. Voilà. Okay.
Et ça permet aussi parfois de négocier des termes meilleurs. Parce que quand tu arrives et que tu dis, voilà, on voudrait investir 50 ou 100 ou 200, forcément, tu peux peut-être négocier un meilleur prix ou des choses comme ça. Donc, c'est surtout l'accès, en fait, que ça apporte.
Donc, vous faites tout ça, vous commencez un groupe. Ça marche bien tout de suite? C'est compliqué au début, peut-être? Les gens n'ont pas confiance en vous, peut-être?
C'est très dur. En fait, on s'est rendu compte que ces gens qui étaient anonymes, ça marchait parce qu'ils s'étaient fait des amis...
anonyme
très
aussi.
Longtemps, voilà. Ouais. Et donc en fait, il y avait de la confiance.
Ils
sont
fait une réputation, un truc aussi.
Il y avait
aussi,
de la confiance, même si les gens savent pas vraiment qui c'est, il y avait de la confiance. Et nous, même en montrant nos visages, la confiance, ça prend du temps. Il n'y a pas vraiment de secret.
Donc vous avez dit, on n'est pas anon, on monte les visages.
Ouais.
Il me semble que tu as une petite anecdote aussi là-dessus.
Voilà, on a montré les visages, on a partagé nos Facebook à l'époque, c'était encore un peu Facebook.
C'est en quelle année? 2018 donc.
C'est 2018, voilà. 2018. Donc laisse tomber les Facebook quand on était jeune, enfin bref.
Ok.
Voilà, et donc c'est dur à fake, c'est des réseaux sociaux avec des années d'historique,
oui,
t'as
des photos, des trucs,
moi où je joue au ping-pong, enfin bon, pour montrer qu'on est des vrais gens, qu'on peut plus ou moins retrouver, qu'on va pas partir avec les fonds. Et ça marchait pas, on était désespérés, putain, on est là, on va pas partir avec les fonds, on vous propose des opportunités d'investissement sympathiques, comme les mecs à côté qui sont anonymes, mais...
Et anonymes, vous les suivez, mais pas nous, les gars.
Ouais, ouais, voilà. Et donc, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, mais si on montrait nos passeports? Et mes potes, si on la mettait fou, arrête. Et je dis oui, mais on cache quelques champs, on cache l'adresse, pas qu'ils viennent toquer à notre porte, ouais, on sait pas, il y a quand même des tarés potentiellement.
Bizarre, hein.
Et bon, on l'a fait. Et
attends, je résume. Tu t'es littéralement pris en vidéo avec un passeport, avec ta gueule à côté, c'est ça?
Voilà. La vidéo, on l'a supprimée depuis, mais bon, le passeport existe encore quelque part.
On essaiera de vous le retrouver.
Voilà, bon.
Pourquoi? Est-ce que ça a marché au moins?
Ça a marché un petit peu. Les gens se sont dit, ces types-là, bon,
ils veulent
sont assez
vraiment
déter quand même. Ouais. Et ça a fait un peu marrer les gens. Bon, voilà. Et voilà. Avec le temps, les choses, quand tu viens chaque jour, que tu montes des projets, les gens petit à petit te font
petit
confiance.
À petit, oui, tu te crées une street cred, hein.
C'est comme ce que les anonymes ont fait avec le temps. Voilà. Nous, ça nous a pris quelques mois. Peut-être que c'est allé un peu plus vite parce qu'on a montré nos visages. Et voilà, on a commencé à lever des montants un peu plus significatifs pour des projets.
Le premier montant que vous levez à Gains, c'est combien? La première opération.
C'est rien, en fait. Pour une anecdote, il y avait quasiment zéro. C'était en Ether, c'était 1,5 Ether, 2 Ether. À l'époque, l'Ether était plus bas. Donc, c'était quelques milliers de dollars. Okay. Pour rentrer dans des private sales, il fallait au moins 20K, 50K. On était très loin. On mettait un peu notre argent à nous parce que nous, on investissait.
Vous aviez confiance
aussi. Pour montrer que ça se remplissait, mais ça faisait rien.
Okay.
Donc, c'était dur au début de bootstrap, mais petit à petit, ça a fini par marcher.
Le plus grand montant que vous ayez levé sur un projet?
On a fait 1 million par rapport.
Vous avez réussi à lever 1 million pour quel projet?
Pour un projet qui s'appelle Tassen, qui performe pas très bien d'ailleurs.
Ok. Voilà. Mais on est encore en mode private, le truc est sorti.
C'est sorti. Bon, ils exécutent comme ils peuvent. C'est pas un rug. Voilà, on verra. En crypto, tout est possible.
On verra au fil du temps. Ok, donc vous arrivez petit à petit à vous créer une street cred au fil du temps, etc. Est-ce qu'il y a un événement vraiment qui a fait que ok, nous on est Gains Associates, on n'est pas des petits rigolos là, on est sérieux. Et, enfin. Est-ce que tu as vraiment un moment qui est un peu la pierre angulaire de ce mouvement-là?
Ben écoute, en mai 2018, ça c'est...
Donc c'est tout de suite après. Mais c'est quoi ça?
5 mois quand même. C'est...
5 mois, c'est pas c'est, très long.
C'est à la fois long et rapide, mais 5 mois de galère, c'est long.
Ouais, j'avoue. Ouais,
on avait commencé à lever des montants et des projets corrects avant ça.
À ce moment-là, excuse-moi, vous êtes tous full-time sur Gains Associates?
Non, moi je suis full-time et mes amis... ils ont un job et franchement c'était très dur pour eux parce que en fait c'est très prenant. Il faut être sur Telegram, répondre, faut être au taquet.
Il faut répondre à la communauté, il faut trouver les projets, il faut s'assurer. Vous aviez besoin de KYC, les utilisateurs, non?
Non, à l'époque, non.
Ouais, c'est beaucoup de temps. Donc eux, ils ont un boulot, ils enchaînent un deuxième boulot, plus la vie de famille, compliqué.
Le quatrième cofondateur a fait un burn-out au bout de 6 mois.
Ah bon.
Parce que voilà, c'était trop dur. Et bon.
Ça arrive. Et donc, en mai 2018?
En mai 2018, on a le projet qui s'appelle Quant Network.
Okay.
On a réussi un coup qui était assez incroyable. On leur avait parlé depuis des mois. Donc, on avait établi le contact en février.
Comment ça marche d'établir un contact?
Tu les DM sur Telegram.
Tu les DM sur Telegram. Genre, coucou, c'est nous.
Bonjour,
oui,
c'est
oui,
Gaze,
baguette.
On aime bien ce que vous faites. On voudrait investir. Je résume, hein, mais
ça marche encore aujourd'hui comme ça?
Oui, bien sûr.
Okay.
Et tu leur dis, voilà ce qu'on peut, comment on peut vous aider. On a une communauté qui va faire du bruit sur Twitter.
Faut investir, truc et tout, ok.
Mais ça prend un peu de temps parce que nous aussi, on veut attendre de voir s'il y a des gens qui rentrent, comment le projet évolue. Bon. Et on se réveille un peu tard, pour être honnête. On voit, ils ont fini leur public sale. Donc normalement, la public sale, c'est vraiment
le dernier moment.
C'est la cerise sur le gâteau, le projet se lance juste après. Et on se dit, putain, c'était quand même un projet qui était solide. C'est dommage, on avait une bonne relation avec eux. On va voir si on peut pas rentrer quand même, même s'ils ont fini leur public sale.
Mais comment ça se fait que vous êtes réveillé trop tard, vu que vous leur parliez des mois avant?
Il y a plein de trucs
qui
se passent.
Vous avez juste oublié.
Mais on avait encore un groupe avec eux. Okay. Et on leur dit, ouais, congrats pour la public sale.
Il vous reste un slot.
On avait dit que vous nous aviez gardé un ticket, c'est bien ça, pour la private. La private avec 60% de discount alors que vous venez de finir votre public. Donc il y a des gens qui hier
qui ont payé 50 centimes le token.
Voilà. Nous on l'a en gros
20 centimes.
Voilà. Ouais. On arrive à faire un gros ticket là-dessus.
Et ils sont ok de vous faire rentrer.
Voilà. En fait bon à l'époque en termes de PR, si ça s'était connu, ça aurait énervé les gens qui étaient rentrés en public.
Bah oui, et c'est normal et c'est légitime de.
Bien sûr.
C'est légitime.
Mais c'était dur de savoir ce qui se passait dans plein de groupes.
Ouais, bien sûr.
Donc ils ont dit que c'était ok. Ils ont pris le cash. Nous on est rentrés.
Combien ils ont pris? Combien
ils
vous
ont pris 500K environ.
Vous leur avez levé 500?
On a investi 500K, voilà.
5 mois après avoir fait Gains Associates?
Ouais, pour un projet. Donc ça, c'était à la fois notre plus gros coup to date en termes de montant et en termes de qualité de projet.
Aujourd'hui, Quant Network, c'est assez connu, c'est même très stylé.
C'est top 50, c'est un projet qui est vraiment très solide.
Vous avez fait quel multiple dessus?
Alors, je crois que ça a fait quasiment x 500. Ouais. Ça a pris du temps, parce que forcément, ça s'est lancé mai-juin 2018, quand tout était au plus bas.
Donc, c'était plat pendant quelques mois.
Donc, fallait quand même avoir les couilles de hold pendant longtemps parce que pour faire un gros retour.
Ok.
Mais bon. Donc, voilà, ça nous a vraiment lancé. Et à partir de là, c'est vrai que les gens nous ont vus différemment. Et d'ailleurs, c'était l'un des derniers deals qu'on a fait avant plus de 6 mois, vu qu'après, on est rentré vraiment dans le bear du bear.
Là, c'était dur. Et comment tu fais pour survivre 6 mois dans le bear?
Ben, on avait la chance d'être assez petit. On n'avait pas. On n'a pas vraiment d'employés.
Il n'y a pas de cash burn, il n'y a pas de.
Voilà. Donc, okay. Moi, à l'époque, j'y vais encore chez mes parents. Donc, voilà.
Comment vous faisiez de l'argent, vous, là-dessus? Sur les 500K, vous aviez une com, j'imagine?
On prenait une commission.
Ok, de combien?
Alors, je ne sais plus combien c'était assez faible, c'était quelques pourcents.
Moins de 10% donc?
Ouais. Okay. À l'époque, c'était sur un site qui s'appelle PrimaBlock. Voilà.
Donc, ça me dit quelque chose. Non, parce qu'on en avait parlé, je crois, une fois de PrimaBlock.
Ouais, mais c'était incroyable et c'est vraiment ce site qui a permis à tout l'écosystème de se développer. Parce que ça permettait de lever des fonds avec un smart contract et de redistribuer en proportion de ce que chacun mettait les tokens.
Dans les adresses directement.
C'était totalement trustless. Il fallait quand même faire confiance à l'admin de la pool. Mais en termes d'organisation, tu n'avais pas à avoir ta propre sheet Excel de ton côté. Ça faisait gagner beaucoup de temps.
Toi, tu disais à tous tes abonnés sur le canal Telegram, hop, vous envoyez à telle adresse, et en fonction de il y a combien dans la pool, si t'as envoyé 1%, tu récupères 1% des tokens. Quoi.
Voilà.
Et après, les fonds sont automatiquement envoyés. Ça existe encore?
Non.
Non? Pourquoi? Non.
Ça a été décommissionné, je sais plus trop pourquoi. Je pense qu'en fait, les groupes maintenant qui font de l'investissement, ils ont leur propre solution in-house qui est plus custom et flexible et voilà.
Et donc toi, en fait, ton boulot, c'était de renvoyer les gens vers PrimaBlock ou c'est toi qui ouvrais un espace sur PrimaBlock pour envoyer ensuite.
PrimaBlock, tu pouvais y accéder de deux manières. En tant que créateur de pool, ça s'appelait des pools à l'époque.
Ce que vous étiez,
voilà.
Toi.
Et en tant qu'utilisateur qui veut contribuer.
Qui veut juste contribuer à une pool. Voilà. Okay. Et après, ils choisissaient tel projet, Quant, voilà, je veux rentrer dans la pool de Gains, de, je sais pas moi, de Sardine, de n'importe quoi.
Alors, il n'y avait pas encore de tiers à l'époque.
Vous devenez des VC. C'est littéralement ce que vous êtes.
Ouais. C'est une sorte de crowdfunding. Du crowdfunding avec du retail.
Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans la communauté Gains
Associates? Il y a environ 500 membres vraiment actifs qui participent au deal. Et après, il y a une communauté beaucoup plus large de quelques dizaines de milliers de personnes.
Quelques dizaines de milliers, carrément.
Qui regardent les news, qui regardent ce qu'on fait.
Comment ça se passe aujourd'hui? Vous allez cider, enfin vous allez due-deal un projet en amont, avant de. Vous, j'imagine que là aujourd'hui vous avez grossi quand même. On parle de quasiment 35 millions de dollars de levée au final sur les 6 ans. Comment ça se passe? Vous recevez plein de dossiers, j'imagine, pour investir. Vous regardez, il y en a que vous prenez, d'autres que vous prenez pas.
Alors on regarde assez peu. Déjà, je me rends compte qu'on commence à être un peu comme les VC, les cold message, cold intro et autres, parce que en général, par expérience, c'est moins quali.
Ok.
Mais on essaie quand même parce que parfois il y a des pépites.
Dans les intros, c'est-à-dire que moi demain je te mets avec un intro avec un projet qui lève et tout, statistiquement tu veux te dire c'est peut-être moins intéressant.
Non,
je te dis
toi, je te connais, toi je vais regarder si ça vient de toi.
Ok.
Mais s'il y a un mec random qui me DM sur Telegram et qui me dit oui j'ai un projet, voilà ce que c'est, franchement,
déjà il part
le mec
avec
il a peu de chances de réussir.
Il a peu de chances. Ok.
Voilà. C'est d'ailleurs c'est ce que les plus gros VC disent, c'est important de networker quand t'as un projet. Et si t'arrives pas à avoir une intro, bah ça montre que t'as pas compris comment le game se passait vraiment. Mais bref, c'est un détail.
Aussi, ouais, ça peut être une manière de classer. De...
Voilà. Bon. Mais voilà, on a un réseau, on a beaucoup, bah, on a des VC qui on partage des deals, on a des influenceurs qui aussi ont des deals parce qu'ils sont connectés, on a des launchpads avec qui on partage des deals, des échanges avec qui on partage des deals. Donc il y a beaucoup de players dans l'écosystème, voilà, on s'échange des informations.
Vous acceptez un dossier, donc c'est-à-dire qu'il y a une private qui va sortir sur laquelle vous avez une allocation. Comment ça se passe?
Alors, donc déjà, il y a plusieurs calls. Il y a l'équipe qui prend des calls, ensuite...
Ça, c'est tout le boulot en amont, etc. Imaginons, voilà, le Crypto Daily, demain, on lance un token. Très mauvaise idée, mais sait-on jamais. Spoiler, on n'en fera pas. Vous acceptez de le faire. On ne sait pas comment, mais vous acceptez. C'est quoi la suite?
Alors la suite, c'est que on va créer un résumé de votre projet. Donc ça va te présenter toi, Ben,
un petit brief,
cofondateur, CEO. On va écrire ce que t'as fait avant dans la vie pour montrer que t'as déjà été successful, que t'as déjà fait un podcast qui a tant de milliers d'abonnés et autres.
Okay.
On va parler de ton token, ok? Le token, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la DeFi? Est-ce que c'est un jeu?
Est-ce que c'est un meme coin?
Est-ce que voilà, peut-être. on va parler des features du produit. Donc est-ce qu'il y a déjà quelque chose qu'on peut tester? On fait un petit résumé, c'est un petit brief rapide, simple.
Okay.
On va parler des tokenomics, donc combien de tokens la team se garde, combien de tokens les investisseurs vont acheter. Bon, très classique. Et alors, vraiment dans les tokenomics, ce qui est important, il y a deux choses. C'est la valo, donc à combien tu paies.
On fouille une fois que
voilà,
le truc est sorti.
Par exemple, okay. Tu lèves des fonds à 10 millions de valuation.
Alors 10 millions, qu'on soit clair, c'est si tous les tokens étaient sortis maintenant, ils vaudraient 10 millions, c'est ça?
Voilà. Alors, okay. En général, ce que les projets font, c'est qu'il y a un pourcentage très faible de ces 100% de tokens qui circulent au début. Peut-être que ça va être 5% des tokens.
Oui, et après, petit à petit, au fil du temps, t'es investi.
Si t'as levé à une valo de 10 millions et qu'il n'y a que 5% de ça qui circule, ça fait 500K. Donc, ça fait un market cap initial assez faible, ce qui est pour ça aussi qu'on peut avoir des gros multiples.
Mmh.
Voilà. Et donc, la valo, c'est important. Le vesting, c'est important. Ce qu'on a appris, c'est que la communauté, et même nous, on veut... Dans la plupart des cas, plus de 90% des cas, on veut qu'il y ait un certain montant des tokens auquel on peut accéder directement au TGE.
Le fameux TGE.
Voilà. Parce que c'est d'ailleurs une différence très importante et incroyable en crypto par rapport au monde traditionnel. En crypto, comme dans le monde traditionnel, tu as plus de 90%, et je suis gentil en disant 90%, des startups qui échouent.
Mmh, okay.
Ce qui est incroyable en crypto, c'est que même ces startups qui vont échouer après 2, 3, 4, 5 ans, très souvent, tu peux récupérer le montant initial que tu as mis parce que très souvent, elles vont faire du marketing, elles vont faire du bruit au lancement et il va y avoir un pump. Après, ça peut pump, dump, ça peut repump et monter, ça peut...
Oui, c'est sûr que quand tu lances un token, de toute façon, tout le monde en parle d'un coup, etc.
Voilà, donc imagine si dans les investissements traditionnels, tu arrivais très souvent à récupérer ton initial et qu'en plus, tu avais l'upside du x50.
Du vesting, etc. Ouais.
Ça, c'est une différence fondamentale et nous, on est dans un écosystème, on est vraiment profond dans l'écosystème, mais moi, j'ai aussi une appétence différente au risque. Mais avec cet argument, vraiment, pour moi, investir dans les cryptos, c'est pas si risqué. Parce que, en fait, tu récupères ton initial assez facilement. Voilà.
Vous avez fait combien de projets aujourd'hui avec Gaines?
On a fait plus de 300 projets.
300 projets, il y a toujours eu du TGE ou parfois ça arrive qu'il y ait 0% TGE?
Non, parfois il y a 0% au TGE.
Ok. Sur les 300 projets au TGE, où il y a eu un TGE, donc disons que ça y reste 200 projets ou 150 projets, sur combien de fois vous avez été rentable day one? C'est-à-dire que les gens, ils ont remboursé leur investissement day one au TGE. Existe ça, vraiment?
Ouais, bien sûr. C'est assez. En bull market, franchement, une très grande majorité des
projets. Sérieux? En pendant si. Période de bull market, même si t'as un 10% tes jeux, tu es capable de avec, il y a tellement de multiples que tu peux rembourser ton.
En bull market, le bull market de 2021, ouais, ça nous faisait rire, mais ça nous énervait un peu aussi. Les gens de la communauté réellement se plaignaient dans les chats quand un projet se lançait à x10.
Parce qu'en fait, sérieux,
tout faisait des multiples incroyables. Les gens étaient oh just 10x shit project, enfin bref. Mais c'est un peu en rigolant, mais il y avait
un fond de vérité derrière. Ouais, mais tu sentais un petit truc, genre.
Voilà. Les gens aiment bien se plaindre. Ça, c'est autre chose.
Même sur un x10, on peut se plaindre.
Voilà. Et donc après, sur un x10, si t'as 10%, tu récupères juste ta mise initiale.
Bien sûr.
Et après, selon le vesting, le mois d'après, peut-être
mais
que tu récupères.
Mais il faut déjà faire le x10.
Voilà. Mais en bull market, c'est très courant. Si t'as que 5%, forcément, faut faire un x20, c'est plus dur. Bon, voilà. Mais il y a beaucoup de projets. J'ai pas les chiffres exacts. Il y a beaucoup de projets où tu récupères ton initiale.
Sur ces 300 projets, sur combien, au fait, j'imagine ça arrivait, et comme à tout le monde, sur combien, vous êtes trompé, soit il y a eu peut-être des rugs ou des projets qui n'ont pas marché aussi, hein, ça arrive aussi totalement.
Je dirais, des rugs dès le départ, il y en a quand même très peu, ça se compte sur les doigts de la main.
Okay.
Des projets qui n'ont pas fonctionné, parce que forcément on a réussi en 2018, en 2019, 2020, donc les projets ont eu le temps de mourir. Il y en a quand même, allez, ça se compte, je dirais, entre 20-30%. Il y a beaucoup de projets qui sont morts, mais sur ces projets qui sont morts, les gens ont pu gagner beaucoup d'argent.
En revendant les tokens.
Si tu revends au bon moment. C'est pour ça qu'en crypto, nous, on dit que c'est important
de savoir
vendre, prendre ton initial dès que tu peux. Après, psychologiquement, t'es mieux aussi. Quand tu reçois tes tokens, c'est l'impression que c'est de l'argent gratuit qui arrive. Voilà.
Ça m'est arrivé d'investir quelques fois en pré-sale. Effectivement, ça fait plaisir quand ça tombe, parce que déjà t'attends plusieurs mois, tu sais, hein, quand t'investis en pré-sale aussi, c'est le risque du jeu, t'attends plusieurs mois, parfois ça peut être des années même. Mais quand ça tombe, t'es bien content, tu te rembourses et tu te dis bon, après ça va dépendre des projets, mais il y a des fois tu vas garder, continuer de vendre. Tiens, d'ailleurs, je suis curieux, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta règle? Donc, TGE initial, tu récupères?
Ouais.
Tout le temps?
Ouais.
100%, c'est ta règle?
Avant, non, maintenant, oui.
Ok. Et ensuite?
Ensuite, franchement, alors ça dépend un peu du projet, ça dépend comment je le sens. Je pense que, j'essaie de garder un moonbag, parce que...
C'est quoi moonbag?
Moonbag, c'est tu gardes pas beaucoup, mais 10-20% des tokens.
Juste
si jamais ça fait un fois 100, ça peut te faire un bon bag.
Okay.
Mais je pense que c'est important de prendre des profits. Il y a une règle qu'on a vérifiée beaucoup, c'est il faut let your winners run and cut your profits. Mm-hmm. Cut your losses.
Ça c'est Warren qui dit ça.
Je crois que c'est lui. Donc et c'est assez vrai en crypto. C'est-à-dire que quand t'as un projet qui est solide, faut pas le vendre. Mais ça reste la crypto, le projet peut se faire hack, tu sais jamais. Donc il y a pas de bonne règle, tu vendras jamais le top. Je pense qu'il faut faire quelque chose par échelon. Tu vois, en crypto, enfin nous on parle, tout le monde parle avec ses amis. Et parfois les gens te disent ouais non, vends là, achète et tout.
C'est très compliqué, c'est presque nocif.
C'est compliqué et c'est énervant. Et en fait, forcément, tu vas donner des mauvais conseils à un moment.
Je préfère pas donner, moi tu vois, je préfère me...
Moi je me souviens avec Quant, les gens me disaient, mes amis me disaient ouais non, vends là maintenant, achète, hold, enfin...
Il faut avoir une paire de bolasses quand même pour tenir sur des tokens, sur des...
Tu sais jamais. C'est, en crypto, tout est possible. C'est ce qui fait la beauté et aussi la difficulté de la crypto. Mmh. Donc, franchement, il y a une part de chance dans la réussite, il faut le dire. Il y a des gens qui achètent un meme coin random, ils sont millionnaires en ce moment. C'est possible, ça arrive, c'est tellement...
C'est une fois sur un million.
Mais tout le monde en parle. Ça, c'est un peu, ça fait rêver les gens, malheureusement, alors que c'est comme gagner au loto.
Ça fait rêver, mais du mauvais côté, parce que les gens, après, ils se disent, il a réussi, pourquoi pas moi, je vais essayer de faire la même. Et malheureusement, on reste sur un marché financier. Chaque dollar qui arrive chez toi, il a été pris à quelqu'un, tu vois, c'est pas quelque chose qui a été, qui est créé ou, quand
en
même.
En général, ouais, mais il y a un énorme biais du survivant. On adore parler des chiffres exceptionnels, forcément. Et c'est vrai que c'est une extrême minorité de winners, d'outliers incroyables qui font les news. Et faut garder ça en tête. En bull market, t'as l'impression que tout le monde autour de toi gagne de l'argent. Ça peut énerver. Il faut rester calme. L'argent va arriver. Voilà.
On est en bull, là?
Pour moi, on est en pré-bull. Très bientôt, on va être en bull.
On a un bitcoin à presque 66 000 dollars.
On est proche. C'est incroyable. Hein. C'est assez early.
Tu l'aurais cru venir? Moi, je l'aurais pas cru
pas
à cette
tôt,
période.
Pas si tôt. J'aurais pas
dit en novembre prochain, peut-être. Mais là, c'est un poil trop tôt, à mon avis.
Ouais, chef. J'ai été très surpris. Il y a beaucoup de gens puissants, des banques, des médias aux États-Unis qui, je pense, ont acheté des gros bagues. Et ces gens-là, à mon avis, vont pump leur bague. C'est comme ça. En fait,
j'aimerais tellement avoir la capacité de pump mon bague comme ça.
Ils contrôlent le game. Pour eux, c'est légal de faire ça. Mais bref, c'est un autre niveau.
Bien sûr. Bon, en tout cas, on se ressent un petit peu sur Gaines, qui est une très belle histoire quand même aujourd'hui. C'est juste une question, avant de parler du jeton et de la conformité, comment vous faites de l'argent aujourd'hui ?
On prend des commissions sur ce qu'on lève, okay. Et on investit aussi nous dans les deals.
Avec la trésorerie de la boîte et vous en perso aussi, j'imagine ?
Exactement, voilà. Okay. On investit 5-10% des montants qu'on lève.
Ok, c'est-à-dire que c'est combien que vous prenez sur, si moi je mets 100 par exemple
c'est
chez
6%.
Vous ?
C'est 6%, donc okay. Tu recevras des tokens comme si tu avais investi
94. Ok. Et derrière, donc, après, bah, vous réinvestissez, de ces 6%, vous reprenez 10% que vous, 5 à 10% que vous investissez dans le projet aussi?
Alors, on investit les 6% de fees, parce qu'on les prend en token. Ça marche bien comme ça, et ça nous fait du cash flow, qui tombe après chaque mois, comme les distributions de tokens pour les gens qui ont investi.
Tout ce qu'on aime.
Voilà. Et on investit notre propre argent aussi, voilà.
Ok, magnifique. Pour ce qui est de la régulation, c'est pas trop compliqué de faire ce que vous faites?
La régulation, si on revient aux bases, c'est de protéger l'utilisateur final, protéger les retails. En crypto, pour moi, c'est une mission quasiment impossible. Même si tu as la meilleure volonté du monde, tu te balades sur Twitter 2 secondes, tu as un meme coin qui t'est chillé. Bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est impossible de réguler ça. Déjà, je me demande, c'est un peu philosophique,
c'est
mais
horrible.
Par la nature décentralisée de la crypto et assez permissionless.
Est-ce
que tu peux vraiment réguler ça?
Ah, justement, tu régules pas les cryptos, tu régules les acteurs.
Voilà. Alors, t'as les boîtes établies, mais le truc, c'est que t'as plein de projets qui peuvent faire du bruit, qui viennent pas de boîtes établies, auxquelles les gens seront, ça viendra comme ça.
Ils arrivent dedans et tu pourras rien faire pour les empêcher.
La régulation, je pense qu'ça protège aussi beaucoup les acteurs existants.
Bien sûr.
C'est une grosse barrière à l'entrée. Moi, je me mets à la place des régulateurs, c'est pas facile de réguler.
Mais
je trouve que c'est beaucoup de paperasse qui, même pour les acteurs existants, ne protège pas des scams. FTX était régulé.
C'est vrai.
Franchement, la régulation, c'est un sujet compliqué. Nous, on s'y plie avec Gaines depuis peu. On est régulé en Lituanie.
Okay.
Donc voilà, il y a des documents de 40 pages qu'on s'est tapés. Il y a eu des centaines.
Les avocats, la compliance. C'est-à-dire que vous avez une partie de la team en compliance, vous,
voilà,
maintenant.
C'est des frais, ça prend plus de temps au quotidien. Ce document décrit ce qu'on doit vérifier sur les utilisateurs, sur les projets. On doit record les calls, on doit montrer qu'on a fait de la recherche. Il y a plein de trucs. Bon, bref.
Vous devez montrer que vous avez fait de la. Vous devez record les calls et montrer que vous avez fait de la recherche.
Voilà. Quelle horreur. Nous, on est vraiment crypto-native. On est rentré parce qu'on aimait bien un peu cet esprit, le fait que ça puisse être explosif, que ça puisse changer nos vies. Moi, pourquoi est-ce que je suis rentré en crypto quand mon ami m'a dit ça monte ? Parce que je me suis dit, ok, j'ai un peu d'économie, ça change rien que ça reste sur mon compte, essayons, peut-être que ça peut changer ma vie.
Et au pire, t'as perdu 5% de ton portfolio.
Et au pire, bon, allez, j'irai prendre un CDI, tant pis. C'est, ouais, mais bon, heureusement, c'est pas arrivé. L'écosystème se professionnalise, chez Gaines, on se professionnalise, mais pour moi, c'est très dommage, ce serait très dommage de perdre vraiment ce côté un peu dégène et où il y a plein de choses qui est possible. Et donc, on essaie de concilier les deux mondes. On est dans une phase un peu charnière.
Okay.
Voilà, donc on fait comme on
peut. Vous avez le droit d'opérer en France, par exemple ? Avec la Lituanie, oui, j'imagine.
Bien sûr, bien sûr. Okay. Il y a 10-15 pays où on ne peut pas accepter les utilisateurs de ces pays. C'est des pays comme l'Iran, comme la Russie maintenant.
Les États-Unis, j'imagine aussi.
Les États-Unis, on peut, alors assez étrangement. C'est des pays, voilà.
Vous n'êtes pas considéré comme faiseur d'ICO, c'est pas votre boulot. Vous êtes un SPV peut-être.
Non, nous on est, on a un VASP, dire, okay. C'est l'équivalent du PSAN français, ouais. Simplement. Et non, pour certains pays, donc t'as les pays où c'est une KYC normale, t'as les pays où c'est interdit, et t'as les pays où il faut une enhanced due diligence. Donc c'est juste, tu demandes,
plus attention,
au lieu juste d'avoir
fonds,
le passeport et l'adresse, tu vas demander la source des fonds, tu vas te poser un peu plus de questions. Pour certains de ces pays, ils sont acceptés, mais voilà, il faut.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, vous pouvez faire de la pub typiquement en France, ok. C'est déjà bien.
C'est pas mal.
Vous avez fait un jeton aussi.
Oui.
Et le jeton, il a quand même beaucoup d'utilité autour de Gaines Associate. Le jeton, c'est le Gaines, qui s'est quand même bien tenu pendant le bear, donc qui a baissé bien sûr comme tout le monde, mais qui a remonté ces derniers jours d'ailleurs. Pourquoi avoir fait un jeton de base ?
Alors, on a opéré plus de 3 ans sans token, sans jeton. Okay. C'est un moyen de prendre de l'argent, de lever des fonds
bien sûr.
Pour scale.
Qu'on se dise, il ne faut pas se mentir. Voilà. Oui, ça l'est, il n'y a pas de...
c'est un moyen d'engager la communauté et de rendre les gens encore plus fidèles.
Avec de l'incentive, bien sûr. Voilà.
Et de créer des effets de réseau. Et ça te donne après, nous, on a encore des tokens qu'on garde et ensuite on peut donner des carottes à des partenaires, on peut faire des choses. Et
c'est... Oui, typiquement un même contest sur Twitter et voilà. Meilleur même.
On peut récompenser avec des gains et on l'a déjà fait plein de fois et on le refera. Donc ça permet vraiment de, ça donne tellement plus de possibilités.
De serrer une communauté autour d'un projet, etc. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord.
Les gens, quand ils stake le gains, c'est différent que d'être juste membre de gains. Comme avant, ils payaient rien, c'était juste à la commission. Mais là, maintenant, ils ont intérêt aussi à ce que le gains token monte. Donc ça aligne les intérêts beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de possibilités. Les points négatifs, c'est que t'as un token, il faut s'en occuper, il faut que le token performe bien, les gens vont se plaindre un peu, il y a tout ce qui est lié au token, si tu veux le mettre sur plusieurs chaînes, faut avoir un bridge, faut apporter de la liquidité, donc c'est pas que génial, mais un token c'est globalement très positif.
Donc vous lancez le token en 2020?
En 2021, avril, le 6 avril 2021, si je dis pas de bêtises.
Qu'est-ce qui permet de faire le token à ce moment-là?
Le marché se porte bien, se porte très bien. On a une communauté qui nous est très fidèle, parce qu'on s'est toujours très bien comporté avec la
question,
communauté.
Est-ce que vous avez fait passer le token, la private du token, sur Gains Associates?
Alors, en fait, on l'a fait, à l'époque, c'était manuel, on n'avait pas de site. Okay. À l'époque, on fonctionnait encore avec des sheets Excel, on était tout de notre côté, enfin bref. Donc, voilà, on avait abandonné PrimaBlock, mais on faisait ça chez nous, sur une adresse. Okay. Et les fonds ont été levés de la communauté, à 90%. Parce qu'on voulait récompenser les gens qui nous ont suivis.
Okay.
Ceux qui avaient fait plus de deals ont eu l'opportunité d'investir un peu plus.
Okay.
On a fait rentrer quelques VC avec lesquels on partageait déjà des deals pour resserrer les liens.
Oui, aujourd'hui, de toute façon, vous êtes... entre VC, tu m'expliquais qu'il y a beaucoup d'échanges déjà. On s'envoie des dossiers, on s'envoie,
etc. C'est très important. Et c'est très important de partager des bons deals à des bons partenaires pour qu'ils pensent à toi quand ils ont des bons deals.
Ouais.
Forcément, c'est donnant-donnant. Okay.
Je suis totalement d'accord avec ça.
Donc voilà, ça s'est fait parce que le timing était bon, parce qu'on avait une communauté qui nous faisait confiance, des gens qui... Et ça, c'est l'une des plus belles réussites, je trouve, c'est d'avoir des gens qui nous suivent depuis 2018.
C'est vrai que c'est beau, ça.
C'est quand même incroyable. C'est des gens qu'on vu Gains évoluer, qu'on vu tous les problèmes d'organisation qu'il y a pu avoir dans les jours...
Au début, les problèmes même un peu plus tard, il y a toujours des
problèmes. Donc c'est vraiment cool.
Mais quand ils sont restés, c'est une belle preuve de loyauté et d'amour. Hein. On peut stacker ce gains et ça nous permet de faire quoi une fois qu'on a stacké le gains?
Alors le gains, c'est un pure utility token.
Okay.
Donc l'utilité, c'est l'accès au deal. Et c'est vraiment ce que gains apporte, c'est l'accès, encore une fois. Parce que nous, c'est très difficile en réalité, hein, le marché est compétitif, mine de rien, d'avoir les meilleurs deals. Avoir des deals moyens, j'ai envie de dire quasiment n'importe qui peut y arriver.
Okay.
Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, et ça j'insiste dessus, c'est que on se bat, c'est-à-dire que les gens savent peut-être pas, mais on va voir les meilleurs projets, on leur dit bonjour, on voudrait faire tout ça pour vous, on voudrait faire des posts, on voudrait vous introduire à nos amis influenceurs, on voudrait vous introduire à des échanges, à des launchpads, on voudrait faire des vidéos pour vous, on voudrait faire des Twitter Spaces pour vous,
et s'il vous plaît, on
voudrait vous payer pour ça.
c'est vrai que c'est un peu bizarre ce côté-là, parce que effectivement, tu vois, nous, c'est quelque chose qu'on commence beaucoup à nous proposer avec le Crypto Daily, c'est d'accéder à des pre-sales en échange de pubs. Alors, au début, tu dis, écoute, moi, je veux bien, mais par contre, je fais de la pub, etc. Donc, je suis OK pour que tu me payes en token, tu vois. Déjà, c'est déjà faire un truc. Et ben, qui dit non, tu vas faire de la pub pour nous, tu vas parler de nous, et en plus, tu vas nous payer et tout. Et là, t'es OK, pourquoi? Comment? Et au final, tu comprends que ça se fait comme ça, tu vois, le truc. Mais c'est un peu...
Ça aligne les incentives, et tu me demandais pourquoi est-ce qu'on a fait le token. Moi, je suis très convaincu qu'en crypto, ça existe un peu dans le monde réel. Les investisseurs dans le monde réel, les VC... aide les startups dans lesquelles ils investissent. Mais en crypto...
D'un côté, c'est normal aussi.
C'est normal. T'as envie que ton investissement fleurisse. Bon, voilà.
C'est logique.
Mais en crypto, il y a vraiment... Il y a une relation très proche. Et c'est chaque jour, t'es dans les tranchées avec les projets,
tu les aides. Tu vois, quand il y a des airdrops, les mecs, ils sont prêts à prendre des balles pour les projets. Hein.
Et en fait, t'as l'équipe du projet qui bosse pour le projet, évidemment. T'as les investisseurs, les VC, les communautés d'investisseurs. Et t'as tous les holders ensuite qui arrivent. Donc en gros, t'as des centaines, voire des milliers d'individus qui aident le projet à différents niveaux. Mmh. Et forcément, ça fait un bruit incroyable. Donc je pense qu'en crypto, on a réussi à faire en sorte que toutes les parties soient alignées pour faire grandir un projet et faire parler d'un projet, de tous les projets qui existent.
Ça se voit d'ailleurs, hein, en général, les projets pour le launch, ils sont tout le monde est démultiplié, ça fait un bruit, mais un bruit de fou.
Quand ils pensent en crypto, il y a quand même un certain nombre de projets qui arrivent à avoir des valos d'un milliard et plus, qui deviennent des licornes en 6 mois, 1 an, 2 ans.
Ouais, juste parce que derrière, t'as une communauté de ouf.
C'est super rare. En crypto, c'est possible parce que tout le monde pousse ses projets. Et c'est aussi la beauté de la crypto.
Donc pour toi, c'est normal de, d'un côté, devoir payer pour faire de la pub, mais, enfin, de, donc de faire de la pub et de payer pour. Ou on pourrait trouver, imaginer trouver un mix un peu des deux.
Alors, nous, on fait plus ça. Parfois, les projets paient en stablecoin des gens pour parler d'eux. Mais nous, on veut vraiment, on pense qu'il y a beaucoup plus d'upside dans les tokens. Donc, on ne paie pas pour faire de la pub. On va avoir des tokens et on pense que les tokens vont valoir beaucoup.
Beaucoup plus que qu'un dollar, voilà. Effectivement. Voilà. OK. Aujourd'hui, un gains vaut à peu près 0,32 centimes de dollar, c'est ça? Il faut stacker un nombre de gains donc pour commencer à avoir les deals. C'est ça? Combien de gains minimum?
Alors, ça commence à 1000 gains.
OK. Qu'est-ce que j'ai quand je stack 1000 gains? Juste une chose, le stacking, si je me trompe pas, il est très long par contre.
Alors, il y a deux plateformes. Donc, ce qu'on a fait pendant 6 ans, voilà, pour expliquer. On a investi dans des rounds early, seed, private. Avec, quand tu investis, souvent tu attends 6 mois avant que le projet se lance.
Bien sûr.
Le prix du token quand tu l'achètes est très bas, donc tu peux faire un multiple plus important. Et là, ce qu'on lance, c'est le launchpad. Sur le launchpad, c'est les public sales. Donc, c'est après. Forcément, les projets sont plus gros, plus développés, il y a moins de risques. Mais tu payes le token un peu plus cher. Mm-hmm. Mais aussi, quand tu investis, tu peux investir lundi et le lundi d'après, ou alors dans la semaine, tu as tes tokens.
Au moins, c'est direct. T'as pas de
Au niveau du cash flow, c'est très différent. Et donc, on a deux plateformes. On a une plateforme pour investir dans des deals early.
Il faut attendre tranquillement. Voilà. C'est-à-dire que ça va mettre plusieurs mois avant d'avoir les tokens.
Voilà. Okay. Et on a une plateforme, le Launchpad, où c'est pour les public sales.
Lundi, donc, vendredi.
Voilà, en gros. Mais voilà. Et donc ça, il faut stake plus pour accéder au deal early, parce que c'est pour des investisseurs qui ont plus le temps, qui ont un peu plus de capital, qui peuvent se permettre d'attendre. Et pour le Launchpad, voilà, c'est de 1000 à 50 000 gains pour accéder à des tiers avec des bonus. Parce qu'encore une fois, plus tu stake, plus tu peux investir. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Parce qu'il faut bien comprendre encore une fois que l'allocation, nous, elle est finie. C'est-à-dire que le projet va lever peut-être 3 millions.
Et ils vont vous donner 500 000 maximum par un euro de plus.
Voilà, et 500 000, c'est déjà énorme. Parce
200 000.
Que les projets veulent faire rentrer plusieurs investisseurs. Ils veulent faire rentrer des investisseurs aux États-Unis, en Chine, je ne sais pas où, en Turquie, qui ont différentes communautés.
Ils veulent avoir pour le moins cher possible le plus de monde possible, ce qui est compréhensible.
Voilà, ils veulent... si nous, on peut leur donner tout le support que j'ai mentionné avant pour une allocation de 50K et qu'ils peuvent faire ça avec d'autres, ils vont le faire.
Bien sûr.
Donc, il faut se battre pour avoir le plus d'allocations. Donc, nous, ensuite, il y a des gens, c'est un vrai problème, surtout en bull market, les gens veulent investir le plus possible vu que tout marche. Mais c'est limité et on se bat pour avoir le plus. Donc après, on répercute ça forcément sur la communauté.
Donc demain, moi, j'ai, imaginons, 15 ou 20 000 gains de stacker. Ça va me permettre d'avoir un pourcentage de l'allocation. Par exemple, sur une enveloppe, vous avez 200 000 euros maximum donc pour tout gains. Donc il y a tiers 1, 1000, tiers 2, 10 000.
Alors c'est pour le launchpad, c'est 1000, 3000, 10 000, 25 000, 50 000.
Ok. 25 000, qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir?
Alors, pour rentrer très rapidement dans les détails, là, c'est une loterie.
Okay. Donc,
pour les deux tiers les plus hauts, 25 et 50, il y a des tickets garantis. Et ensuite, le montant total de l'allocation dépend aussi du nombre total de stakers sur le launchpad. Okay. Plus il y aura de gens, plus l'allocation sera petite, sachant que nous, on va adapter. Quand on verra qu'il y a de plus en plus de gens, on aura plus de force de frappe.
Donc et on pourra aussi
négocier des allocations plus grosses. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. C'est difficile de prévoir et de dire avec tel tiers, tu auras tant d'allocations. Ce sera quelques centaines, peut-être 1000, quelque chose comme ça.
Okay. C'est difficile de lancer le launchpad? C'était vraiment une demande?
Alors, le launchpad, c'est pour moi une des plus grosses erreurs qu'on a fait avec Gains de ne pas le lancer dans le bull run 2021.
Okay.
On n'était pas tout à fait prêt niveau technique, mais comme tu le disais, on a fait quand même des chiffres assez importants. On a un track record qui est très solide. Moi, on a des compétiteurs. Je connais aucun de nos compétiteurs qui a lancé 3 projets qui sont dans le top 50 maintenant. On est rentré dans la private sale d'Avalanche, on a fait Hashgraph et Quant. C'est 3 projets dans le top 50.
Vous êtes rentré sur Avalanche?
Voilà.
Stylé.
Donc, c'était en bear, en 2020. Okay. Et en fait, les gens avaient peur.
Est-ce que c'est pas encore mieux de rentrer pendant le bear au final?
Oui, mais c'est pareil, on fonctionne en tant qu'humain avec l'environnement qui est autour de nous. Et si tout le monde a peur autour de toi, c'est très dur de pas avoir peur. Okay. Et tu peux jamais savoir, forcément. Bon, ils auraient pu rater, on sait pas.
C'est quoi votre plus grosse erreur? Enfin, pas erreur, mais le truc que vraiment que t'as raté, et encore aujourd'hui, t'as un peu les boules. Genre, tu l'avais, t'aurais pu le prendre, mais tu t'as dit, non, je le sens pas.
Tu veux dire à titre perso ou pour Gaines?
Non, avec Gaines. Genre, c'est sûr que t'as dû voir passer un deal, que vous avez dit, non, on va pas le faire, et au final, le deal, il fait des fois 500.
On avait la private sale de Solana. Il y a le pledge dans notre vieux Discord à l'époque. Quelques centimes.
Quelques centimes le sol.
Ouais.
Oh là là. Voilà. Bon, pourquoi vous l'avez pas prise? Tu t'en rappelles? Ça s'est pas fait. Il y avait trop de projets.
Le marché descendait. Les gens étaient pas tant que ça en confiance. Voilà.
Pas de regret de toute façon. Il faut
non,
pas regretter.
Non, écoute, faut avancer de toute façon. Il y a pas de regret à avoir. Mais oui, ça c'est le plus gros.
Ça aurait été un énorme multiple. Mais bon, c'est le jeu. Vous êtes allé ailleurs. Vous avez aussi fait vos multiples. Hein. Avalanche, vous l'avez payé combien là?
Avalanche, c'était 50 centimes.
Ok.
C'est le même prix que la public, ça arrive parfois.
Ça fait un fois 100, ça veut dire, au top?
C'est monté, ouais, non.
$50, moi, là.
C'est monté à 150, donc ça doit faire fois 300 environ.
Ah, il est monté à 150, quasiment, ouais.
Sachant qu'avec le staking, t'avais un peu plus de tokens, enfin bref. Mais bon, personne ne vend au top du top.
Personne n'achète au plus bas, ça n'existe pas. Les gens qui disent, j'achète toujours au plus bas et je vends toujours au top, ça n'existe pas. Ne tombez pas dedans, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Mais tu vois, ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps. C'est que maintenant, je suis pas pressé je m'en fous de vendre au top. Je vends quand j'ai envie de vendre. Tu vois, quand je le sens. Là, typiquement, j'ai pris des bénéfices, là, il y a même pas 5 jours, pour première fois en 2 ans. J'ai vendu du bitcoin. Et ça fait plaisir.
Ouais, c'est bien.
Et ok, donc là, il a remonté un peu. Qu'est-ce que je m'en fous, tu vois pas? Enfin.
C'est bien de rester liquide. Moi, je me souviens quand on a commencé en 2018, je le sentais dans mon ventre. Quand ça montait, quand ça descendait, j'étais très émotif. parce que tu vis le truc.
Ah, mais
quoi.
Tu vis des
quand ça
des
commence
sensations.
Avec des montants auxquels t'es pas habitué par rapport à tes situations, et ça peut aller vite. Et c'est vraiment les montagnes russes. Tu perds et tu gagnes, et tu perds et tu gagnes beaucoup d'argent. Et t'es là, qu'est-ce qui se passe? C'est chaud.
Tu regardes encore ton wallet tous les jours?
Non, pas du tout. Ouais, parce que après, on est beaucoup. Moi, je suis pas un investisseur. Je suis plus un entrepreneur. Je check avec tous les membres que ça se passe bien.
Ou tu regardes le prix d'un token parce que voilà, c'est le dernier token que vous aviez ou un truc.
Mais je suis pas du tout.
T'es pas toutes les deux secondes à tiens mon wallet. Non. Combien il y a mon wallet?
Non, non. Voilà. Je pense que c'est contre-productif et que d'ailleurs par rapport au vesting, souvent le vesting en anglais c'est it's a blessing in disguise. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de positif, mais un peu caché. La plupart des gens voudraient avoir tous leurs tokens maintenant.
Des one, ouais, bien sûr.
Sauf que...
Ils n'aiment pas attendre, les gens n'aiment pas attendre.
Non, ça, voilà. Mais si tu as tous tes tokens maintenant, peut-être que tu vas vendre que à x5, je ne sais pas. Alors que
surtout
t'attends...
que tout le monde va vendre tout de suite, en fait. Enfin...
Bon, personne ne sait au final, personne n'a de boule de cristal. Mais avec le temps, on est beaucoup plus posé. On sait que tu ne vas jamais vendre au top, que tu vas perdre de l'argent, que tu vas rater un meme coin qui va faire x1000. C'est la vie. La beauté de la crypto, c'est pareil. Il y a des gens dans les groupes qui ratent des deals. Ah, on a run un deal, c'était la nuit parce qu'il y a différentes time zones. Il y en a qui sont en Inde, en Asie, aux États-Unis.
Ah, ils sont time sensitive, vos deals? C'est-à-dire que
souvent, ça run sur 24, 48 heures et tout le monde a le temps de rentrer.
Ah, c'est quand même. Enfin, peut-être tout le monde a le temps de rentrer, mais c'est ultra court, 24, 48 heures quand même.
En crypto, les gens sont au taquet et sont connectés souvent. Parfois, surtout dans les plus bas tiers, il n'y a pas beaucoup d'allocations. Et ça arrive qu'il y ait des deals où il faut vraiment être réactif. Pour ces deals-là, les gens ratent parfois et se plaignent. Oh, j'ai raté ce deal. Je dis, mais t'inquiète pas, des deals, il y en a 10 qui arrivent.
Vous en faites beaucoup des deals?
En bull market, on en fait plus, forcément.
Genre là, en ce moment?
En ce moment, on en fait. Allez,
tu vois que ça commence à ressortir?
2 par semaine, ce qui est quand même pas
2
mal.
2 par semaine?
Ouais, c'est ce qui est peu pour
c'est
nous.
Énorme.
Ce qui est peu pour nous.
Sérieux?
En bull market.
Combien t'en fais?
En bull market, on a eu des semaines où on en faisait un chaque jour de la semaine.
Comment c'est possible? Enfin. Niveau due diligence, comment vous faites? Vous dormez pas?
Tu fais que ça, t'as une équipe, tu fais des erreurs, mais encore une fois, en bull market, c'est moins grave de faire des erreurs parce que tout marche quasiment. Et donc, oui, t'as investi dans un projet qui est pas ouf, c'est pas grave, il vaut mieux investir.
Ça juste fait x10.
Non, même s'il fait x2, tu t'en fiches puisque t'en as un autre qui va faire x10.
Ok.
Voilà.
Là, en ce moment, vous êtes à 2 fois par semaine, c'est. Ouais. Et ça, c'est juste. Pour tout ce qui va être le token, le côté early.
Ce qui est early.
Et Launchpad,
ça va être plutôt un par semaine, un tous les 10 jours. Parce que le Launchpad, on accompagne vraiment.
Vous êtes Binance ou quoi?
Non, mais les Launchpads, c'est en fait quasiment une partie de notre équipe bosse pour le projet pendant la semaine autour du lancement.
Okay.
Parce que Il faut communiquer à fond, il faut s'assurer que ça se passe bien. Quand on investit en seed, on envoie l'argent et les mecs, les devs, ils vont sur
ouais,
le produit.
Nous,
on va pas les aider, on va pas les aider avec le code, on va pas.
Mais le launchpad, c'est demain, quoi. C'est voilà. Le lancement, c'est demain.
On peut se permettre facilement, entre guillemets, en termes de ressources allouées, d'investir dans beaucoup de projets early, mais pour le launchpad, on doit vraiment les aider. Donc là, c'est, on en fait moins.
C'est quoi la différence entre ICO et IDO? À part le C et le D, bien sûr.
Franchement, il y a plein de d'acronymes en crypto. Non, initial coin offering, initial DEX offering. DEX, qu'est-ce que ça veut dire?
Decentralized.
En fait, c'est parce que c'était des communautés d'investisseurs, mais il y en avait déjà des communautés qui rentraient dans les ICO. Il y a eu le IEO, IEO sur les
oui,
échanges,
les
initial exchange offerings.
Bah, c'est ce qu'on peut voir sur Binance,
voilà,
etc.
Ce qu'on fait, nous, enfin, on l'a pas inventé. C'est Binance qui d'ailleurs a relancé le run de 2019. Ils ont commencé en 2019, si je dis pas de bêtises.
Je sais pas.
Les IEO. Et c'est comme ça qu'ils ont relancé un run. Donc, avoir un token natif, pareil, sur Binance, tu stakais du BNB et t'avais une partie d'une allocation
d'un
projet. Okay. Au final, sur Gains, on fait la même chose.
Vous avez pas peur d'être un peu plus cher qu'un Binance, par exemple? Aujourd'hui, un Binance, tu peux commencer à avoir des retours très rapidement. Enfin, ou avec un BNB stacké, t'as déjà donc 300 balles. Là où vous, déjà, ça commence à 1000, donc c'est 300 balles aussi. Mais par contre, très vite, pour monter dans les tiers, aujourd'hui, le plus grand tiers, c'est 50 000 tokens, ouais. Ça fait combien? Ça fait un peu moins de 30 000 balles?
Ça doit faire moins, ça doit faire, oui, peut-être 15.
15 000 balles, ok.
Ben, alors, ça peut monter en termes de montant. Tu peux mettre 15 000, staker 15 000 dollars de gains si tu veux rentrer dans le plus gros des tiers. En fait, il y a beaucoup plus d'intérêt à rentrer chez Gains, selon moi, que chez Binance, parce que Binance, ils ont des millions d'utilisateurs. Ouais. Donc, ok, tu peux staker un BNB, mais tu as aussi un million de mecs qui vont staker un BNB. Donc, tu vas avoir une alloc assez petite. Mmh. Même si Binance, ils ont 2 millions d'allocations, ça va être réparti entre tellement de membres que ça va être petit. Sur Gains, il y a vraiment une opportunité. On connaît tous les launchpads. L'écosystème en crypto, il est petit, on collabore avec eux, c'est à la fois des compétiteurs, bref. On a fait une review un peu de l'état de l'art quand on était en train de faire la landing page pour voir niveau design, UX, tout ça.
Okay.
On a parlé à beaucoup de nos membres parce que les membres sont aussi dans d'autres launchpads. Parmi les plus gros launchpads, c'était là où les utilisateurs étaient les moins satisfaits. Pourquoi? Okay. Parce que quand les launchpads sont gros, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui stake. Ça veut dire que tu dois diviser les allocations entre plein de gens. Et donc forcément, ça fait des petites allocations pour plein de gens. Donc même si tu as un gros launchpad, que tu as 500K d'allocation ou 1 million, bah ça peut faire des petites allocations. Alors que si nous, chez Gains, on est quelques milliers, mine de rien, tu peux avoir quelques centaines de dollars d'allocation, voire un millier ou deux dans les plus gros tiers peut-être.
Donc on peut avoir assez facilement un 200 ou 300 balles.
En fait, c'est pas propre à Gains, mais le life cycle des launchpads, c'est qu'il y a beaucoup plus le ratio en termes de dollars mis en staking par rapport à dollars que tu reçois en allocation est beaucoup plus intéressant au tout début de la vie des launchpads. Parce que ensuite, quand il y a des IDO,
là, ça commence,
ça commence à se savoir, les gens viennent et stake de plus en plus, et forcément, les allocations sont plus petites par personne.
Okay, donc, il faut en profiter tant que c'est encore...
Selon moi, mais voilà.
Avant de terminer cette interview, d'ailleurs, j'en profite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Abonnez-vous.
Merci. Comment tu vois le futur chez Gains Associates?
Le futur, nous, ça fait 6 ans qu'on est là, donc on est là pour rester. On voudrait être le leader pour l'investissement en crypto,
okay.
Niveau communautaire, pour les particuliers. Une plateforme de crowdfunding, comme AngelList, mais plus démocratique. Parce que AngelList, ça reste pour les investisseurs accrédités.
Okay.
Chez Gains, il n'y a pas besoin d'être accrédité. C'est d'ailleurs une différence fondamentale. Moi, un point qui, quand je commençais au tout début à apprendre sur l'investissement, pour faire une parenthèse, pour investir dans les meilleurs projets en equity, il faut être accrédité. Pour être un investisseur accrédité, il faut que tu aies beaucoup d'argent déjà. Donc, il faut avoir soit des revenus réguliers, plus de 200 000 par an pendant 3 ans, okay. Soit il faut avoir plus d'un million en assets, enfin bref. Et en gros, c'est les riches ont le droit d'investir dans les meilleures opportunités.
Bien sûr.
Ce qui est dommage.
Mais malheureusement.
Tu peux avoir un job, gagner un peu d'argent, vouloir investir 500 dollars par mois ou que sais-je, et avoir un cerveau et être un adulte et avoir le droit de prendre des risques. Sauf que c'est interdit dans les marchés traditionnels pour investir, pour faire du VC, investir dans des startups early.
Il faut être riche.
En crypto, les barrières à l'entrée sont cassées et on peut apporter ces opportunités d'investissement à tout le monde. Ça, je trouve que c'est incroyable. Selon moi, en plus, le marché, en fait, c'est à peu près toute la Terre. Sauf problème idéologique ou vision différente, beaucoup de gens souhaitent investir pour sécuriser leurs vieux jours ou même gagner plus d'argent à court terme. Donc, le marché est énorme. Nous, on veut se professionnaliser. on veut apporter toujours plus de projets, des plus gros projets. On réfléchit aussi à faire une offre institutionnelle parce que c'est intéressant, il y a un marché pour ça, notamment pour rentrer dans les projets très tôt quand c'est trop risqué en fait.
Encore plus tôt qu'une private ?
Pour rentrer dans les seeds, quand voilà, c'est souvent des investisseurs professionnels qui font ça parce qu'il faut attendre plus longtemps, parce qu'il y a plus de risques. Et donc ça nous permettrait de diversifier notre offre, ça permettrait d'avoir une relation avec ces projets dès le début et après de les amener sur la plateforme Gains qui existe déjà en private, peut-être en public. Ça nous permettrait vraiment de toucher tout le cycle. Donc on réfléchit voilà, à la fois au côté institutionnel et on va appuyer le côté retail.
Impatient de voir ça. C'est un horizon combien de temps à peu près ?
2 ans. Ça bouge vite en crypto.
Tu reviendras nous tenir au courant ?
Avec plaisir, Ben.
Où est-ce qu'on peut retrouver Gains sur les réseaux Gains?
Alors,
sur Telegram ?
C'est sur Telegram, c'est Gains Chat.
Ça s'affiche ici. Voilà. Gains Chat.
Voilà. Et il y a Gains Anne, c'est pour l'Announcement Channel.
OK.
Après, Twitter, Gains Associates.
On a des petits jeux.
Allez.
Tu vas trouver des petites fiches et tu regardes sur le côté.
Si, pour et contre.
Voilà, pour et contre, je te laisse les montrer à la caméra. Donc ça va être très rapide, hein. Je vais te donner des notions et tu vas me dire si t'es pour ou si t'es contre.
Okay.
Le vesting.
Le vesting, je suis pour.
Le cliff.
Le cliff, contre.
Il n'y a pas de bon cliff pour toi ?
Si, pour la team, il faut des cliffs, pour les advisors. Oui.
Mais pas pour les investisseurs, c'est compliqué le cliff ?
On préfère quand il n'y a pas de cliff. Parfois, on fait des projets avec 3 mois de cliff, 6 mois, un an, ça fait beaucoup, un an de cliff, faut attendre. Cliff, c'est vrai que le vesting est interrompu. Tu reçois
quelque chose TGE, mais après, pendant X mois, ou rien TGE, pendant X mois, c'est rien non plus.
Ça coupe quand même la liquidité au niveau du cash flow.
Ça fait un peu mal. Solana ?
Solana, écoute, alors, je vais dire pour... En racontant une petite anecdote, parce que Solana a beaucoup évolué. Solana, la blockchain, nous, on a fait des projets sur Solana qui ont très bien performé pour certains. On a fait un projet qui s'appelle CryoWar, qui était un projet de jeu qui a fait, je crois, plus de 200x. J'ai plus le chiffre exact, mais bref. Solana, c'était pour moi, à titre personnel, un enfer quand je devais faire les distributions de tokens. C'est-à-dire que vraiment, j'étais effaré.
Oui, parce que c'est pas EVM.
C'est pas EVM. C'est-à-dire que si je veux envoyer des tokens à 100, 200 personnes d'une transaction, c'est pas possible.
Bien sûr.
Et on manquait de certains outils, mais surtout, la blockchain était interrompue tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait plein de transactions qui n'étaient pas validées.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Ils ont fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de gens très smart, qui étaient des Ethereum maxi, qui ont bougé un peu sur Solana. Je pense qu'il y a quelque chose à voir sur Solana. Et c'est un bon exemple de projet qu'a continué malgré ses difficultés.
Ok, dernière chose avant de terminer. Une petite minute. Je vais te poser des questions. Tu me réponds oui ou non.
Ok.
C'est tout. Est-ce que la spéculation est trop présente dans la blockchain ?
Oui.
Est-ce que le trading est fait pour tout le monde ?
Non.
Est-ce qu'un projet qui prend en valeur est forcément un bon projet ?
Non.
Est-ce qu'un projet qui perd en valeur est forcément un mauvais projet ?
Non.
Est-ce que tu penses que le prochain bull run sera le dernier ?
Non.
Est-ce que l'intelligence artificielle est la prochaine grosse tendance ?
Oui.
Est-ce que le Web 3 remplacera le Web 2 ?
Pas remplacé.
Est-ce que tu penses que l'on aura un jour l'identité de Satoshi ?
Non.
Est-ce que les DAO sont trop fantasmés par la communauté ?
Un peu.
Est-ce qu'on pourra voir le Gains à $5 ?
J'espère. Et plus.
J'espère aussi pour toi. En tout cas, merci beaucoup Alex, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous qui êtes bien sûr restés jusque-là. Donc si vous êtes là, c'est que vous aimez ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ce que fait Alex parce que c'est très intéressant. Vous pouvez aussi vous abonner. Et c'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et moi je vous dis à très vite.
Merci Ben, abonnez-vous au Crypto Daily.
Merci Alex.